Dialogue entre Polonais présenté par Franck Mirande.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Actualité économique. La RDC reste toujours dans la zone rouge en matière de gestion des finances publiques. Les efforts entrepris dans la réforme de ce secteur n'ont pas encore produit des avancées significatives. C'est la conclusion de l'atelier tenu la semaine dernière à Kinshasa par le comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Comment analyser cette situation? Que faut-il pour assainir les finances publiques en RDC? Nos invités sont Godefroy Missenga, coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, une structure qui dépend du ministère des Finances. Monsieur Missenga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alain.
Sakine Tungani, économiste et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti de l'opposition. Monsieur Tungani, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Claude Soumata, professeur d'économie à l'Université catholique du Congo. Professeur Soumata, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux, comme d'habitude, à nous envoyer vos réactions. Jacques Asponge de Bukavu Sud Kivu, je pense que l'efficacité du contrôle et la promotion des sanctions sont deux paramètres qui puissent aider la RDC à améliorer la gestion de ses finances publiques. Ingénieur Ngoï Saïdi David de Kalino Katanga, pour arriver à la stabilité dans la gestion des finances publiques en RDC, il faut combattre l'impunité et la corruption qui semblent très en bonne santé ici chez nous. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocafé.net.
La RDC reste toujours dans la zone rouge en matière de gestion des finances publiques. Les efforts entrepris dans la réforme de ce secteur n'ont pas encore produit des avancées significatives. Ceci ressort d'un atelier tenu jeudi dernier à Kinshasa par le comité d'orientation de réforme des finances publiques. C'est en collaboration avec la Banque mondiale et l'Agence britannique pour le développement. Cet atelier d'une demi-journée a porté sur la présentation de l'exercice PIFA. Ce sigle anglais veut dire cadre des mesures de performance dans la gestion des finances publiques. C'est un cadre mis en place en 2001 par la communauté internationale, depuis expérimenté dans 200 pays du monde, dont la RDC. Reportage Daniel Tambinzoni.
Le PIFA tient compte de 31 critères de performance, parmi lesquels la crédibilité du budget depuis son élaboration jusqu'à son exécution, les contrôles et les audits tant internes qu'externes. La première évaluation de ce programme en RDC a eu lieu en 2008 et ici, seulement 8 indicateurs étaient cotés C, c'est-à-dire assez bons. Tout le reste était coté D, la mauvaise note. La deuxième évaluation de ce programme est prévue au mois d'avril et mai de l'année en cours. Les résultats seront publiés au mois de juin. Sisso Kofili est spécialiste à la Banque mondiale en charge de la gestion financière.
On n'aime pas beaucoup les éléments de comparaison, mais c'était beau aussi de voir un peu comment est-ce que la RDC se comporte. Le schéma que vous avez vu est très parlant, avec cette cartographie colorée en rouge, en bleu, en jaune et en gris. Vous avez certainement vu où se situe la RDC. Donc, l'exercice sera réalisé encore une fois cette année en 2012. On va faire une autre photographie du système de gestion des finances publiques des différents indicateurs. Je pense qu'il y aura certainement des améliorations, mais pas de façon significative. Ce qui est important, par contre, c'est que vous, les médias, que la société civile, vous ayez connaissance de où on se situe en 2012 et qu'ensemble, avec le gouvernement, vous puissiez définir les progrès qui doivent être réalisés dans les 4 années à venir.
La RDC, selon les orateurs de cet atelier, affecte moins de ressources financières aux secteurs prioritaires que sont la santé et l'éducation. Un autre péché de la RDC dans la gestion des finances publiques se justifierait par de graves dépassements budgétaires.
Merci Daniel Tambinzoni. Godefroy Missenga, je rappelle que vous êtes coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, une structure qui dépend du ministère des Finances. Comment vous expliquez que la RDC demeure toujours dans la zone rouge en matière des finances publiques?
Oui, mais celle-là, je voulais un peu apporter un collectif. En fait, je vous en prie. Les tableaux qui étaient présentés le jour de l'atelier mettaient la RDC dans la zone rouge. C'est par rapport à l'évaluation de 2008, mais qui concernait les exercices budgétaires 2004, 2005 et 2006. Ça n'avait rien à voir avec la gestion actuelle. Nous devrions évaluer et définir la zone de la RDC lors de la prochaine évaluation qui sera faite au mois de juin 2012 afin de pouvoir identifier les avancées, les contraintes, les difficultés dans la conduite de la réforme des finances publiques. Donc la situation qui a été présentée ne concerne pas cette année, ça relève, ça concerne les années antérieures, 2015, 2005 et 2006.
Alors, la précision, c'est pas possible. Alors, cette situation qui avait été présentée en 2008 et qui concernait les exercices budgétaires 2004, 2005, 2006, comme vous le dites, cette situation, en ce qui concerne les finances publiques, a-t-elle changé à ce jour, Godefroy Lissinga?
À moins qu'on ne soit en règle, sans pouvoir voir. Les signaux aujourd'hui montrent à suffisance qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont entrepris dans les domaines des finances publiques. Le fait qu'on ait présenté l'évaluation de 2008, le gouvernement a réponse aux promesses. Il était présenté lors de cette évaluation, le gouvernement a conçu et adopté une stratégie de réforme des finances publiques. La stratégie est bâtie autour de 5 axes principaux. Le premier axe, c'est la réforme budgétaire. Le deuxième axe, c'est le renforcement de la discipline fiscale. Le troisième, c'est l'amélioration de la gestion de la dépense. Le quatrième, c'est la tenue de la comptabilité et la gestion de la trésorerie. Et enfin, le cinquième axe, c'est le système de contrôle. C'était pour répondre aux différentes faiblesses qui étaient identifiées lors de la première évaluation. Et comme vous le marquez, la stratégie a été adoptée en 2010. Et depuis 2010, il y a beaucoup de points et beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre de la procédure.
Alors, comment vous expliquez le fait que les choses se sont améliorées en matière de gestion des finances publiques, mais le Congolais continue à vivre avec moins d'un dollar par jour? Comment vous pouvez lui expliquer cette réalité?
Il y a une différence qu'on doit faire en principe. Les finances publiques, c'est un domaine de la vie publique comme tous les autres domaines. Il y a des efforts, bien sûr, qui sont menés dans la gouvernance financière. Il faudrait également qu'il y ait d'autres choses qui sont faites dans les domaines de la gouvernance administrative, de la gouvernance politique, de la gouvernance territoriale. Donc, il y a beaucoup de domaines de la vie publique, mais aujourd'hui, on devrait se dire et accepter qu'on doit reconnaître que le taux de croissance d'aujourd'hui n'est pas celui qui était hier. Le taux de croissance que nous avons aujourd'hui n'est pas celui d'hier. La stabilité du taux de change aujourd'hui n'est pas celle que l'on a connue. Aujourd'hui, la monnaie nationale est presque rapprochée de sa contour classique. Les gens aujourd'hui préfèrent même détenir la monnaie nationale du 1er jusqu'au 30. Et aujourd'hui, lorsque nous avons les plans prévus dans le cadre du programme de l'Ordre des Fonds internationaux, vous sentez que nous sommes en train de conclure revue par revue. Et aujourd'hui, il y a les efforts qui sont à saluer. Et il faudrait être la mauvaise foi, avoir la mauvaise foi, pardon, pour ne pas reconnaître les avancées significatives dans le domaine des finances publiques. Bien que les finances publiques appréciées devraient être appuyées, les efforts qui sont posés dans ce domaine devraient être également appuyés par les autres efforts dans d'autres domaines de la vie publique.
Alors, il y a également un autre fait à signaler, c'est que le Parlement, l'Assemblée nationale, particulièrement de la législation passée, a détecté beaucoup de cas de détournement, beaucoup de dossiers, des dépassements budgétaires. Il y avait même des problèmes pour déposer le rapport d'exécution du budget. Et tout ça, ça fait problème. Et comment vous expliquez, vous pouvez nous dire maintenant qu'il y avait transparence dans ce domaine?
Il y a un problème de... En fait, les gens parlent sur de faits qui ne sont pas étayés par le preuve.
En tout cas, l'Assemblée nationale, en comptant, a suffisamment donné des preuves sur ça.
Moi, je parle en fonction de preuves. Aujourd'hui, lorsqu'on a fait l'évaluation de 2008, il a été observé des dépassements budgétaires très criants. On le voit même à des taux de 200% de dépassements budgétaires. Aujourd'hui, année à l'achat de la dépense. Le fait qu'on ait renforcé les contrôles a priori de la dépense. Le fait qu'on ait soumis toutes les dépenses aux procédures, la quasi-totalité des dépenses aux procédures standards, aujourd'hui, le taux de dépassement budgétaire, je ne vois pas que nous puissions atteindre le taux qu'on a connu il y a 5 ans. C'est pour vous dire que la transparence est là, l'exhaustivité des données budgétaires est là, Et aujourd'hui, on peut cliquer sur le site web du Centre du budget et des finances, on aura les données budgétaires, elles sont publiées.
Mais en son temps, l'Assemblée nationale a eu beaucoup de mal pour avoir ces rapports. Je me rappelle que, sauf erreur de ma part, il s'était arrêté à l'examen du rapport premier trimestre 2009, je crois.
Dans le cadre de ce que nous avons comme... dans le cadre de nos relations avec les institutions financières internationales, dans le cadre du programme économique du gouvernement, nous avons une mesure permanente qui consiste à la production des rapports mensuels et trimestriels de l'exécutif du budget. Et ces rapports sont produits chaque mois et chaque trimestre. C'est que quelqu'un qui veut avoir une idée de la manière dont les dépenses publiques sont exécutées, de la manière dont les budgets exécutés, il faudrait aller au sein du budget sur le site, vous allez voir les données budgétaires.
Donc on comprend que pour vous, la RDC a quitté la zone rouge.
Je ne préfère pas me prononcer que la RDC a quitté la zone rouge, mais par rapport aux efforts que je suis en train de voir, j'attends l'évaluation de juin 2012 afin de démontrer les écarts entre la situation vécue en 2004 et celle que nous allons vivre en juin 2012.
Sachin Soundani, vous êtes économiste et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise, parti de l'opposition. Comment vous analysez les différentes réponses que vous avez suivies de Godefroy Nissenga en matière de finances publiques?
Eh bien, j'ai noté que mon ami Godé, qui est mon collègue, mon condisciple de classe, qui est aussi mon ami, j'ai donc noté qu'il est resté très théorique. Parce qu'en réalité, il faut que nous allions dans la pratique. Comme vous le savez, les finances publiques, c'est la gestion des ressources de l'État, c'est-à-dire tout ce que l'État peut avoir au moyen de l'impôt, des taxes et des autres moyens de trésorerie, comme les redevances, circuits budgétaires. Mais c'est également la façon dont l'État gère ces avoirs-là. Il me semble que l'État dispose d'un moyen légal qui est la loi financière et d'un moyen technique qui est le budget de l'État. Mais je suis au regret de constater qu'il y a une opacité totale dans la gestion des finances publiques. Je vous donne juste un petit exemple. Lorsqu'on se rappelle de ce que a dit l'IPIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives, le journaliste, ici même, dans ce plateau, le coordonnateur, Maboli a reconnu effectivement des insuffisances au niveau de la canalisation de tout ce qui est recettes en provenance des minerais, des mines, si vous voulez. Et donc, j'aimerais encore aller plus loin, c'est-à-dire que les normes existent. Lorsque nous nous rendons compte, lorsque nous observons les procédures qui sont mises en place, que l'on connaît, c'est-à-dire engagement, etc., liquidation, ordonnancement des dépenses et paiements, on se rend compte qu'effectivement, les normes existent. Mais dans ces dépenses-là, que sont ces dépenses? Ces dépenses concernent quoi? Les crédits qui sont affectés, comment sont-ils gérés? Un seul exemple, au niveau de l'armée, peut-on aujourd'hui nous dire quel est l'effectif exact du personnel militaire, du personnel policier? Quels sont les militaires qui sont en activité? Quels sont ceux qui sont décédés? Aujourd'hui, vous regardez la télévision, vous voyez des veuves, des militaires qui se plaignent de ne pas recevoir les soldes de leur mari décédé. On n'est pas en mesure de maîtriser tout ça. Il y a des détournements qui sont signalés. Par-ci, par-là, il y a une canalisation peu efficiente, notamment des ressources de recettes fiscales qui sont souvent détournées. Vous savez qu'il y a une commission Mayobo qui a évalué à près $1 milliard d'évasion fiscale. Quid de ce rapport? Il y a des personnes qui ont été impliquées. On a révoqué des gens dans l'administration fiscale, on a révoqué des syndicalistes, c'est-à-dire nous autres, alors que dans cette administration fiscale, les vrais responsables de ces détournements sont restés et continuent à signer les trésors publics. Donc, moi, je pense que lorsque j'observe le PFA, c'est le cadre de mesure de performance de la gestion des finances publiques, c'est un document extrêmement intéressant, mais ça reste malheureusement théorique, alors que dans le même temps, la COREF elle-même reconnaît que la RDC
est toujours dans la zone rouge. Alors finalement, on ne sait pas, je vais terminer en disant qu'il y a effectivement un déficit de gouvernance. Je ne parle même pas de bonne gouvernance, parce que la gouvernance, tout simplement, n'existe pas.
Godefroy, Nissing a tout à l'heure évoqué beaucoup de mesures, beaucoup d'efforts fournis pour assainir les finances publiques. Tatin Songani, finalement, sans être méchant, êtes-vous aveugle ou de mauvaise foi? J'en prends de ces termes.
Non, je ne suis ni aveugle ni de mauvaise foi, je fais une analyse simple et réaliste de la situation. Aujourd'hui, il y a des crédits qui sont affectés à des services de l'État, comme l'armée. Je prends un exemple, la logistique ou le carburant, le lubrifiant, qui sont tout simplement détournés, sans qu'il n'y ait de moyens, un, de contrôle, sans qu'il n'y ait deux, de moyens de sanctions, sans qu'il n'y ait trois, de moyens de correction. Et cela est visible dans toutes les sphères de l'administration publique et les finances publiques. C'est pas seulement voir comment les recettes entrent, mais aussi de voir qu'est-ce qui est fait de ces recettes en termes de dépenses. Observons le budget de l'État, notre budget. Regardez les déséquilibres qu'il y a dans des secteurs qui sont essentiels pour la vie d'une nation, comme la santé, comme l'enseignement. Ce sont des secteurs qui sont essentiels pour la vie de la nation. Alors, je me pose la question de savoir, ce n'est pas... vous savez, monsieur Alain, moi, je ne voudrais pas être théoricien, je veux qu'on soit pratique. Comment voulez-vous que l'on parle d'amélioration de la gestion des finances publiques dès lors que, dans le même temps, la Corée reconnaît qu'on est dans la zone rouge, dès lors que, dans le même temps, les Congolais ne constatent pas que dans la gestion de l'argent de l'État, il y a une nette amélioration, bien au contraire, on constate un enrichissement des cadres de l'État avec l'argent de l'État. Parce qu'en fait, les ministres, je n'en citerai pas, les premiers qui sont succédés, je n'en citerai pas, et d'autres très très hautes autorités de ce pays s'enrichissent avec de l'argent qui se trouve logé dans le trésor public, dans le compte général du trésor, et dont les décaissements, même si vous dites que ça obéit à des règles procédurales, mais on se rend compte qu'effectivement, l'argent du contribuable congolais est saigné, et que dans le même temps, on ne dit pas aux Congolais de façon claire et nette ce qui est fait de leur argent. Vous savez que, M. Alain, au bout de l'exécution de l'exercice budgétaire, on ne nous dit pas toujours de façon claire et précise ce qu'a été l'exécution du budget qui vient de s'achever.
Professeur Claude Soumata, vous êtes professeur d'économie à l'Université catholique du Congo. Professeur, on a l'impression qu'il y a une contradiction entre les chiffres et la réalité sur terrain. Professeur, quelle est votre analyse?
Mon analyse doit porter d'abord sur les aspects même des finances publiques, à savoir le premier aspect qui consiste à collecter les ressources. À collecter les ressources, il faut que les ressources puissent en fait être assez intéressantes pour pouvoir justement financer les dépenses. Donc ça renvoie d'abord au mode d'allocation à l'assiette fiscale, par exemple, et qui doit être développée au nombre des personnes qui paient effectivement l'impôt. Ça, c'est déjà un problème majeur en RDC. Et par la suite, effectivement, l'allocation de ressources. L'allocation de ressources renvoie justement, je pense que mes prédécesseurs en ont parlé aussi, ça renvoie au financement des secteurs porteurs. Alors, M. Godefroy Missing a juste expliqué parler justement des avancées sur le plan macroéconomique, ça c'est indéniable, en termes d'inflation, en termes de stabilité de taux de change, et même en termes de croissance, qu'on a observé depuis 2002, une croissance positive. Mais la croissance au départ, elle n'est pas suffisante, pour effectivement qu'on puisse avoir des avancées sociales. Alors, le grand problème, c'est le financement des secteurs porteurs, et en particulier l'emploi. Les gens puissent avoir des revenus décents, puissent effectivement se souvenir à leurs besoins de base, à l'alimentation, la santé, l'éducation. Ça, ce sont des problèmes récurrents de l'économie congolaise. C'est qu'il faudra effectivement plus de transparence. Même si les gouvernements ont fait des efforts, il faudra plus aller dans le sens de plus de transparence, de mettre en place des mécanismes qui puissent effectivement combattre l'impunité. Non. De ce point de vue, les réformes existent, mais en fait,
elles doivent être poursuivies dans la bonne direction, mais surtout mettre l'homme au centre du dispositif. Hein. Moi, j'ai fait l'économie pour effectivement avoir un développement par rapport aux hommes. Hein. Donc, l'économie ne peut pas être en dehors du développement économique, et le développement passe par l'amélioration des conditions de vie de la population. Et là, du point de vue, l'allocation des ressources ne se fait pas toujours en faveur des secteurs prioritaires. Hein. L'éducation ne représente pratiquement pas grand-chose. Hein? Et la santé ne représente pas grand chose. Mais la recherche scientifique, si on veut développer ce pays, on devra tendre vers ce qu'on appelle l'économie du savoir. L'économie du savoir, c'est-à-dire utiliser les performances technologiques, hein, utiliser les capitales humains, hein, c'est-à-dire avoir quand même une plus-value qui soit importante, hein, par rapport au secteur prioritaire. Hein. Le secteur prioritaire, ici, en RDC, avec une économie qui est plus ou moins extravertie et basée par rapport à l'extraction des matières premières, hein, donc le secteur minier qui est le fer de lance de l'économie, mais il faudrait aller dans le sens d'une transformation plus importante des produits sur place, de façon à avoir plus de plus-values et essayer d'orienter les ressources vers les secteurs porteurs. Alors, le grand problème, effectivement, à RDC, c'est, bien entendu, le problème de gouvernance. Hein. Là, il ne faudra pas se voiler la face, hein, une gouvernance à la fois politique, économique et administrative. Okay. Alors, de son début, les réformes doivent être engagées pour avoir quand même la fonction publique qui soit en fait à la hauteur des enjeux de ces millénaires. Hein. Donc quand on voit l'administration en tant que telle, hein, ça vaut pour les finances, mais ça vaut aussi pour autre chose. Hein. Donc il faudra aller dans le sens justement du respect du budget. Et là aussi, on a eu des exemples avec l'Assemblée nationale où l'exécution et surtout le contrôle budgétaire n'est pas toujours réalisé.
Professeur, à ce jour, de votre point d'analyse, de votre point de vue d'analyste, la RDC, malgré les avancées, malgré les efforts, est-elle encore dans la zone rouge ou l'a-t-elle quittée?
Ouais, moi, je maintiens que la RDC est dans la zone rouge, hein, là, je te dis, il n'y a pas de doute à mon sens, hein, parce que effectivement, les performances auxquelles on assiste n'ont pas encore, abouti à des résultats palpables. Hein. Comme je disais tout à l'heure, bon, effectivement, il y a des efforts en termes de gestion de la dépense, tenue de la comptabilité, gestion de trésorerie, oui, bien entendu. Mais il faudra aller un peu plus loin, hein, il faudra aller un peu plus loin, et surtout, les finances publiques, en fait, doivent être en adéquation avec la politique économique dans son ensemble. Hein, donc, il ne faudra pas se contenter de l'équilibre des finances publiques qui serait, en fait, une fin en soi. C'est qu'il faudra aller au-delà, avoir une politique de répartition des richesses nationales qui puisse, en fait, procéder au nivellement par le haut avec les plus démunis qui pourraient avoir des ressources. Et de ce point de vue, justement, la taille d'initiative PPTE, justement, a aussi des contraintes dans ce sens. Hein. Certaines dépenses à caractère social doivent être privilégiées. Et de ce point de vue, justement, l'éducation et l'agriculture, par exemple. Hein. Donc, on ne va pas revenir sur les chiffres, mais en fait, en termes de budget, les ressources allouées au secteur prioritaire sont dérisoires. Donc, il faudra un peu inverser la tendance, considérer le secteur prioritaire et aussi l'investissement. Hein. L'investissement aussi est faible. Hein. Comment réaliser un développement? On parle aujourd'hui du Congo émergent, bien entendu, mais comment y arriver si on n'a pas un plan d'action qui peut nous permettre d'aller dans ce sens avec justement une allocation substantielle des ressources par rapport au secteur prioritaire? Donc, voilà un peu les enjeux fondamentaux auxquels on est confronté aujourd'hui.
Merci, professeur. D'autre part, Misenga, vous réagirez également au point de vue de Tati Soumdjanié, du professeur Claude Soumata. Mais on se souviendra que le 13 juillet, le président de la République a promulgué la loi relative aux finances publiques. Qu'est-ce que cet instrument a apporté de plus dans les finances publiques en RDC?
Merci, Alain. Gilles m'a dit, je suis économiste, comme l'a dit mon ami Tati Soumdjanié, et j'aime parler de chiffres. Je parle en l'air. Et en vrai, lorsqu'on débat, lorsqu'on discute, il faudrait qu'on me présente les tableaux en matière de finances publiques, ce qu'il a été hier, en termes du département budgétaire, en termes du processus budgétaire lui-même, que ce soit le processus de préparation du budget, en termes
du processus d'exécution du budget, en termes de mécanismes de contrôle, en termes de la première comptabilité, qu'on essaie de faire les tableaux et qu'on les compare à la situation d'aujourd'hui. Et là, le débat serait utile. Mais lorsqu'on dit l'opacité, où est la preuve? Il faudrait comparer l'opacité, si on la décrit aujourd'hui, par rapport à ce qu'a été ce système hier. Aujourd'hui, dans ce pays, il y a eu des moments, des années entières, qu'on a passé sans budget dans ce pays. Aujourd'hui, là-bas, nous avons repris l'exercice annuel où le gouvernement présente cette année le budget au Parlement. Bien qu'il y ait certains ratés qui continuent, mais il y a quand même des efforts. On doit saluer. Aujourd'hui, le gouvernement s'est doté d'une stratégie qui n'a jamais existé. Et ils ne sont pas mis les pays africains. Ils sont dotés d'une stratégie de réforme qui est en fait la base sur laquelle s'appuie l'histoire de ce gouvernement. Et je voudrais également répondre au professeur lorsqu'il affirme qu'au niveau des secteurs prioritaires, la santé et l'éducation, l'enveloppe à leur secteur n'est pas consistante. Moi, je préfère que, comme jamais le chiffre, quel était le niveau de cette enveloppe en 2002, en 2001? Pendant que ces secteurs, l'allocation d'une enveloppe secteur était parmi les déclencheurs du voyage d'argent, les déclencheurs 5 et 6. Si on n'avait pas cette spécificité, on ne serait pas arrivé au niveau du voyage d'argent, parce que c'était l'un des déclencheurs du voyage d'argent. Et je voudrais répondre à votre question quand vous dites nous avions une loi financée à la 83. Aujourd'hui, le chef de l'État vient de promulguer une nouvelle loi relative aux finances publiques. Quelle différence entre les deux? C'est que la nouvelle loi fait passer la gestion publique et une gestion de moyens vers une gestion de résultats. C'est-à-dire, désormais, l'action publique en matière de finances publiques sera évaluée de façon systématique. Lorsqu'on a dépensé l'argent de l'État, on doit évaluer cette action publique en termes de son efficacité, de son efficience, de sa pertinence et de son incidence socio-économique. Il faudrait donc, on devrait orienter les débats au Parlement. Aujourd'hui, les débats au Parlement tournent autour de qui aille combien. Mais les débats seront détournés, qui aille combien pour quel résultat.
Il y a Igiri Majado de Bukavu sur Kivu qui dit qu'il ne faut pas des grosses lunettes pour voir comment quelqu'un qui vient du néant et qui, une fois engagé dans une régie financière, en sort très riche dans très peu de temps. Brève réaction, Godet Sanissim.
Est-ce que ça c'est les finances publiques ou c'est le gouvernement administratif? Il faudrait quand même connaître des choses. Les finances publiques, en petit mot, signifient l'ensemble de principes qui gouverne la gestion des finances publiques. C'est ça, Brésil. Qui gouverne la gestion des deniers publics. Et ces principes aujourd'hui sont fixés dans le socle qui est là, qui est la loi relative aux finances publiques. Les détournements, l'impunité, bien sûr, ça a un aspect, mais ça fait partie de la gouvernance administrative. Et il y a des efforts de salaire.
Très brève réaction, Tatine Sundani, directement avant que l'on aborde la deuxième partie.
Je pense que je l'ai dit au début de mon propos. Mon ami Godet est resté encore une fois théorique. Lorsque vous allez chez le journaliste aujourd'hui à la chaîne de la dépense pour avoir un paiement, mais c'est la croix et la bannière. Enfin, de quoi on parle? J'ai travaillé dans une administration fiscale et j'étais dans un secteur santé, j'étais syndicaliste. Justement, j'ai eu moi-même à mesurer les insuffisances du système actuel. Lorsqu'on rentre, parce qu'il nous a fait rentrer dans les années Mobutu. Écoutez, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de budget conséquent, et le pouvoir d'achat n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Lorsque vous évaluez le niveau de détournement et d'enrichissement des commis de l'État, mais c'est sans commune mesure. Enfin, il veut des chiffres. Il veut que je lui dise combien de ministres et de premiers ministres ici construisent des maisons à longueur de cet argent-là. Ce n'est pas l'argent qu'ils ont hérité de leurs parents. c'est l'argent de l'État. Il y a un problème de gestion, mauvaise gestion de l'argent de l'État. Donc, il y a un problème de finances publiques. Parce que l'argent, les finances publiques traitent de quoi ? Comme je l'ai dit, de la gestion des moyens de l'État, des ressources de l'État, quelle que soit leur origine, et puis de leur affectation optimale. Comme lui-même a dit, par résultat, c'est ce qu'en fait on appelle l'affectation optimale, c'est-à-dire on affecte de l'argent pour que cet argent produise quelque chose. Aujourd'hui, les crédits qui ont été alloués, par exemple, pour l'exercice budgétaire passé, peut-on nous dire aujourd'hui, après évaluation, qu'est-ce qui a été accordé, quel est le taux de réalisation, quel est le taux de réussite, est-ce que ces crédits ont été optimalisés ? La réponse, je ne vais pas dire non parce qu'on va me taxer de mauvaise foi, mais nous observons qu'effectivement, il y a une dégradation générale de l'ensemble des moyens, des mécanismes qui permettent aux autorités politiques d'avoir une mainmise sur la gestion des moyens de l'État.
Mais n'était-ce pas, peut-être qu'on gagne parce que le gouffre était trop profond et que les avancées ou les efforts semblent noyés dans cet élan?
Moi, je pense qu'on a agrandi le gouffre parce que quand on observe, à l'époque de Mobutu, je ne dis pas que c'était une belle époque, le mobutisme a été un régime abject que je dénoncerai toujours, mais je constate que le régime actuel qui a prétendu chasser l'ancien régime pour corriger n'a pas fait que corriger, au contraire, il a aggravé l'enrichissement et le train de vie des commis de l'État. Donc je ne pense pas qu'il faille rester théorique. Il faut que l'on soit pratique. Dans la pratique, on constate que, un, l'argent que l'État devait prélever ne l'est pas ou ne l'est pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il y a des évasions fiscales, etc. Maintenant, pour ce qui est collecté, il n'est pas toujours complètement canalisé vers les trésors publics. Mais pour ce qui arrive quand même tant bien que mal dans les trésors publics, il est dilapidé. Parce que, je vous ai dit, et on l'a fait en débat ici, le budget est devenu un moyen pour les commis de l'État de s'enrichir. Lorsqu'on alloue les crédits, qu'on les affecte, les commis de l'État qui réalise et qui exécute ce budget, inutilement se retrouve dans la mésgestion de cet argent. Et au final, nous avons une gouvernance qui est complètement médiocre. Alors qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'on a amélioré ceci, on a amélioré cela, parce que tout cela reste théorique. Lorsqu'on va dans les administrations publiques, on se rend compte que les fonctionnaires sont toujours mal payés, qu'il est toujours pillé, que les effectifs existent toujours, que les comptables continuent à détourner, que les ministres continuent à détourner, alors qu'on ne vient pas faire la théorie ici, qu'on soit pratique.
Professeur Claude, ce matin, vous intervenez juste après, mais nous prenons directement la deuxième partie de l'émission parce que le temps ne nous attend pas. Que faut-il pour assainir les finances publiques en RDT? Il y a des auditeurs qui nous ont appelés et qui ont leur point de vue. Vous réagissez, vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient du Katanga.
Professeur Victor Okombe de Lubumbashi au Katanga. La solution, à mon avis, pour lutter contre la mauvaise gouvernance de nos dirigeants, c'est l'instauration d'un tribunal international contre les crimes économico-financiers. C'est la seule chose qui peut effrayer nos dirigeants, parce que sans un seul mécanisme de contrôle, dans une dynamique d'impunité totale, qu'est-ce qui peut empêcher à un pilleur de piller?
Réaction, professeur.
Ouais, je pense que tout le monde décrit ou a décrié l'impunité. Hein. Ça, c'est vraiment un constat qu'on a fait depuis longtemps. Ce qu'il faudra, renforcer, en fait, les systèmes répressifs pour effectivement punir.
Jusqu'à la mise en place d'un tribunal international contre les crimes économiques.
Non, je n'irai pas jusqu'à ce point. Hein. Mais ce qu'il faudra par rapport aux mécanismes qui existent, mais les mécanismes doivent fonctionner normalement. Hein, donc, les gens qui se servent de manière abusive doivent être punis. Hein, ça, c'est sûr. C'est un peu haut. Bon, ça renvoie un peu au problème de la gouvernance aussi, gouvernance économique, de renforcer les capacités de l'État. Hein. Hein, donc, c'est ce qui serait possible. C'est, en fait, il faudrait qu'il y ait un système adéquat qui puisse pénaliser effectivement les gens qui se servent, entre guillemets. Mais au-delà de ça, il faudra aussi renforcer justement la capacité de l'État à emmagasiner les ressources. Hein. Donc, pour effectivement dépenser dans des bonnes conditions, et c'est sûr, ça aussi peut faire une option, mais il faudra aussi renvoyer, c'est-à-dire mettre en place des structures qui puissent canaliser le plus de ressources au niveau de l'État par rapport à un système d'imposition qui soit un peu plus performant hein, et avec une assiette fiscale qui soit aussi élargie. C'est le budget de la RDC n'est pas important en fait à la hauteur d'un pays comme le nôtre, par exemple.
Alors, professeur, quand vous dites qu'il faudrait augmenter les capacités de l'État à collecter les ressources, peut-on aller, par exemple, peut-on parler des mécanismes tels que l'informatisation du système, par exemple?
Absolument, l'informatisation de la paie, je pense que ça commence à se mettre en place, justement, de la paie des fonctionnaires, des agents économiques, entre autres. Là aussi, ce sont des mesures adéquates. La réforme, comment dirais-je, c'est la fonction publique hein, doit être poursuivie pour qu'il y ait effectivement des agents économiques performants hein, à même d'utiliser l'outil informatique et chapeauté par des gestionnaires qui soient à la mesure de la tâche. Hein. Soit les enjeux sont vraiment fondamentaux et que effectivement à la base il faut qu'il y ait une volonté politique dans ce sens hein, qui puisse effectivement mettre en place des réformes substantielles. Et je pense que de ce point de vue, il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
Dans votre précédente intervention, vous parliez également de l'allocation de ressources. Mais professeur, il y a par exemple un problème en ce qui concerne la maîtrise des effectifs des fonctionnaires. Comment ça va se passer tout ça?
Bon, ça, c'est un problème récurrent. Ça fait partie même de la réforme justement de la fonction publique. Effectivement, il y a assez, comment dire, ces personnels pléthoriques hein, et aussi, en fait, du personnel aussi fantôme, hein, quelquefois. Alors, en informatisant justement les systèmes et aussi par rapport à la paie, on pourra effectivement mettre de côté hein, des agents fictifs. Hein, donc, c'est un problème récurrent, même au niveau de la fonction publique, on observe ces phénomènes. Donc, je pense que l'informatisation constitue en fait, un moyen pouvant aller dans le sens justement de l'amélioration de la gestion. Il s'agit vraiment d'améliorer la gestion de la chose publique. Là, de ce point de vue, c'est un programme à mettre en place avec une volonté qui soit en fait, conséquente, hein. C'est un peu ça, ce que je voulais dire par rapport à ça.
Merci, professeur Claude Soumassa. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université catholique du Congo. Godfani Senga, vous êtes coordonnateur du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, une structure qui dépend du ministère des Finances. Vous intervenez après cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Chef de travaux Jean-Benoît Mibeko, Mbandaka, province de l'Équateur. Pour assainir les finances publiques, il faut de nouveaux types de gestionnaires. Ceux qui ont déjà été là ont montré leurs limites. Il faut renouveler les animateurs de nos institutions pour avoir ceux qui ont comme souci la bonne gouvernance, le respect des biens publics et le bien-être de la population.
J'ajoute dans le même temps une réaction qui nous vient de Bukavu, sur Kivu, de Robert Bahomé. Le problème majeur qui se pose dans la gestion saine des finances publiques en RDC, c'est l'homme. Pour se faire force et de le changer, surtout d'en changer la structure mentale, si l'on veut que le secteur des finances publiques soit réellement assaini, auquel cas, on ira de réforme en réforme et jamais on ne sortira de la zone rouge dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Réaction de Fanny.
Merci, Siana. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec il y a une différence entre changer l'homme et changer la mentalité de l'homme. On peut avoir une personne qui a une mentalité qui constitue un obstacle aux réformes. La réforme, lorsque l'on doit réussir, il faudrait partout dans le monde. Là où les réformes ont réussi, c'est là où les réformes ont été accompagnées par la volonté politique et la population technique. Ce sont les facteurs importants pour qu'une réforme ne soit pas étouffée dans l'œuf. Et aujourd'hui, je reviens, j'évite d'avoir un discours militant. Et j'évite d'avoir un discours de politicien. Je reste sur le plan technique. Et je soutiens mes propos. Je dis, c'est bien d'avoir une gouvernance. Et je suis convaincu que l'impulsion aujourd'hui, telle qu'on est en train de constater, c'est que moi, je suis en train de voir, quand je regarde dans les rétroviseurs, je remarque que la santé financière d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et la santé financière d'aujourd'hui ne sera pas nécessairement celle de demain. Ce sont les efforts. La maladie du Congolais, c'est quoi? Un Congolais n'apprécie jamais quelqu'un de son âge.
c'est lorsqu'il est parti qu'on a plus les efforts et qu'on a hommage. Je voudrais qu'on rende hommage quand même, que les choses sont faites. Ce sont des rôles.
Tati Songani, vous êtes économiste et cadre de l'Union pour la nation congolaise. Qu'est-ce qui devrait être fourni en termes d'efforts pour booster ou améliorer finalement la gestion des finances publiques? Je rappelle qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission.
Je voudrais dire en une minute, peut-être moins, c'est que le problème majeur de la gestion, dans la gestion des finances publiques, c'est le déficit de gouvernance. Il y a un déficit important de gouvernance. Il y a une capacité de l'État à contrôler et à mettre sur pied des mesures coercitives, donc la coercition. Parce que, vous savez, combien de criminels économiques ont été arrêtés l'année passée, par exemple? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Le mal est profond, mais il est ailleurs. Je crois qu'on fait des mesures, on fait des réformes, on entreprend des réformes depuis longtemps, depuis 2002. Et comme mon ami le disait, il y a des efforts certains, il faut le reconnaître. Je pense que ce serait aussi être honnête hein, intellectuellement que de reconnaître que les politiques économiques, enfin les politiques post-conflit qui ont été mises sur pied, ont effectivement permis une amélioration significative, je dois le reconnaître, de l'environnement macroéconomique. C'est-à-dire, lorsqu'on observe les trois agrégats classiques, c'est-à-dire l'inflation est plus ou moins maîtrisée, la vie des prix à la consommation, comme on l'appelle, il est maîtrisé, et sans la maîtrise de l'inflation, on ne peut pas induire un développement économique.
Alors, que faut-il pour qu'il y ait plus de ça, cette
inflation? À mon avis, moi, je pense que les réformes qui ont été menées sont bonnes, mais ça ne suffit pas. Il faut que l'on arrête avec l'impunité. L'impunité gangrène toute velléité de croissance. On dit la force doit revenir à la loi, mais pas la loi du plus fort. Donc, pour moi, c'est deux choses. Premièrement, améliorer la gouvernance par des hommes, pas par des politiques ou par des mesures ou des réformes. Et puis, deuxièmement, frapper. Mais alors, frapper pas seulement les faibles, mais même les plus pauvres et les plus riches, et même les amis du siècle. Il faut les frapper.
Professeur Claude Soumata, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que les auditeurs et les internautes qui nous suivent peuvent retenir de cette émission?
Ouais, je pense pour ma part qu'effectivement, les efforts ont été entrepris, hein, comme vient de le dire mon prédécesseur, hein, sur le plan macroéconomique, hein, ça c'est sûr. Mais il faudra aller un peu plus vite. Je pense que les gens qui attendent aujourd'hui, ils attendent des résultats. Hein. Donc, on ne va pas raisonner en termes des chiffres sur le plan macroéconomique, en termes de stabilité macroéconomique, mais on doit aller au-delà, c'est-à-dire avoir des avancées sociales. Ça, c'est un problème majeur. Donc, il faudra allouer plus de ressources au secteur porteur, non seulement de manière quantitative, mais surtout de manière qualitative. Même par rapport à l'économie, il faudra renforcer la productivité hein, de l'économie dans son ensemble, hein, la diversification de l'économie. Et aussi, et je pense, là, c'est un point crucial, comment ne pas avoir un budget qui soit conséquent à la hauteur de la RDC? Ça aussi, c'est un problème majeur. Donc, il faudra y réfléchir. Je ne dis pas que c'est une solution magique, mais il faudra, en fait, aller dans ce sens, c'est-à-dire avoir plus de ressources de façon à les allouer et augmenter aussi les taux d'investissement de la RDC et pour avoir effectivement une croissance qui soit plus importante.
Merci professeur. De l'espoir à Nisenga, qu'est-ce que les auditeurs peuvent retenir en guise de conclusion?
En guise de conclusion, c'est d'avoir confiance. Et nous sommes, en matière de gouvernance financière, nous sommes sur la bonne voie. Les efforts, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, il y en a, mais pour continuer. Et je voudrais que tout le monde sache que nous sommes embarqués tous dans ce bateau de l'effort. Notre attitude sera de sorte que nous sommes brillants tous, soit pour que nous l'ayons bon. C'est à nous donc de jeter les bases.
Merci, Satine Sounani. Conclusion.
Conclusion, elle est toute simple. Hein. Il ne faut pas seulement se limiter aux théories. Il faut que le Congolais sente dans son vécu quotidien que les réformes entreprises ont transformé leur vie.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Dimandango et Patricia Fongo a été à la technique. Dimas et Samuel Kachak m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Ben Kababa. Présentation et coordination, Alain Roumouchige. Au revoir et à demain. Thank you.
Thank you.